les enfants de Cronos.
Alors, Philippe Papet, donc, professeur d'histoire, et je reprends donc ma petite intervention sur les rapports entre l'Église et ses adversaires entre 1870 et 1914. 1899, donc, début de l'anticléricalisme militant, et tentative, je vous l'ai dit, avant de voir les lois anticléricales successives, tentative des catholiques de structurer leur camp face à cette offensive anticléricale du gouvernement. Alors, je vous ai parlé des pèlerinages, des veillées, des conférences, des bulletins paroissiaux et des neuvaines, c'est-à-dire des prêtres qui viennent dans une paroisse pendant 9 jours, organiser des veillées, rassembler les paroissiens et essayer de les convaincre, bien sûr, de la nécessité de ne pas trop céder à l'anticléricalisme ambiant. Alors, à l'issue de ces neuvaines, souvent, on distribue aux familles pieuses des missels ou des crucifix. Ainsi, à Baron, en 1900, sont distribués 230 crucifix, donc pour les familles qui veulent bien adhérer à ces neuvaines. On constate aussi, dans les paroisses, beaucoup d'ex-voto. Si vous allez dans les églises du Valois, vous verrez très souvent, autour de l'autel de la Vierge Sacré-Cœur, des ex-voto, en remerciement donc d'une intervention, d'une intercession. Et la densité des ex-voto est impressionnante entre 1899 et 1906, à l'époque de l'anticléricalisme militant. C'est un signe de résistance, en quelque sorte, à l'ère du temps. Cela dit, évidemment, ces mesures sont très insuffisantes et inefficaces pour empêcher l'anticléricalisme de se développer. Alors, je vous ai parlé de la loi sur les associations. La grande affaire va bien sûr être maintenant la deuxième campagne de loi scolaire. Alors, j'insiste là-dessus. En 1880, il s'agissait, nous l'avons vu, d'extirper les congréganistes de l'enseignement public. Ça a été fait, avec difficulté, avec lenteur parfois, mais l'enseignement public, à partir de 1880-82, a été assuré par les instituteurs et les institutrices formés dans les écoles normales. Là, maintenant, à partir de 1902, il s'agit de supprimer l'enseignement catholique, de faire en sorte qu'il n'y ait plus que l'enseignement public en France. Alors, je précise, là encore, c'est bien pour montrer le côté discriminant. Il ne s'agit pas d'interdire l'enseignement privé. Il peut y avoir des établissements privés laïcs. Il s'agit d'interdire aux congrégations d'enseigner. Et vous verrez d'ailleurs que cette loi d'exception, j'en parlerai, va être un peu la faiblesse de la loi parce qu'il va y avoir, du coup, un moyen de contourner la loi pour les congrégations en sécularisant leurs enseignants, en disant « attention, ce n'est plus des prêtres, ce ne sont plus des congréganistes, donc ils ont le droit d'enseigner ». Il y avait dans l'acharnement anticlérical, en fait, une sorte de faiblesse que les anticléricaux n'ont pas tellement vue lorsqu'ils ont déterminé cette loi. Il s'agit d'abolir l'enseignement catholique. Si l'intention est ferme, l'application reste délicate, car il va falloir que les églises publiques, les écoles publiques, vous voyez, un lapsus, il va falloir que les écoles publiques absorbent la masse considérable d'élèves chassés des écoles tenues par les congrégations. Des délais seront nécessaires parce qu'il va falloir en urgence construire de nouvelles salles de classe et former et nommer rapidement de nouveaux maîtres laïcs. Alors, dans l'arrondissement de Senlis, pour vous donner une idée de l'effort que cela représente, il y avait quand même 33 écoles congréganistes, primaires ou secondaires, surtout dans les cantons urbains de Creil et de Senlis. Et ces 33 établissements congréganistes étaient animés par 22 communautés différentes, essentiellement féminines. Donc cela concerne plusieurs centaines d'élèves. À Crépy, Gustave Chopinet, qui est un maire radical et très zélé, agit dès le vote de la loi. Dès l'été 1903, il va faire rapidement procéder des travaux d'aménagement et de réaffectation de bâtiments communaux, de telle façon à ce que la loi puisse être appliquée tout de suite, en disant au sous-préfet de Senlis, on peut expulser les congréganistes de telle ou telle école religieuse parce que j'ai les moyens sur place d'accueillir les élèves qui seraient sinon en rade. Naturellement, à Crépy, ce sont les sœurs de Saint-Joseph de Cluny qui sont concernées. À Nanteuil, même zèle du maire, il suffira d'un an pour que l'école communale soit prête pour accueillir les élèves issus de la même congrégation enseignante des sœurs de Saint-Joseph de Cluny, c'est-à-dire en fait l'ordre créé par Anne-Marie Jahoué. En revanche, là où le maire ne fait pas d'effort pour dire ben, « j'achète des bâtiments, j'aménage », il va y avoir des lenteurs. Ce sera le cas à Hermenonville, parce qu'à Hermenonville, le conseil municipal conservateur n'est pas pressé de procéder aux aménagements qui permettrait de renvoyer les filles de la Croix de Saint-André qui dirigent l'école catholique. Voilà, donc il y a tout un débat. En fait, c'est moins une résistance politique qui se met en place qu'une résistance technique. On dit qu'on n'a pas les moyens de, et du coup, ça permet aux congrégations de rester sur place un certain temps. Mais dès que l'école publique d'une commune est dans la capacité d'accueillir les élèves des établissements congréganistes, il faut, d'après les consignes du sous-préfet, agir dans l'immédiat. Le critère, c'est la capacité de la commune à accueillir les élèves chassés des écoles congréganistes. Donc, il y aura des délais. Je cite aussi le cas des frères des écoles chrétiennes de Senlis, les sœurs de Marie Immaculée à Chamans, parce que les communes, donc, je vous l'ai dit, bloquent un petit peu leur programme de construction. Du coup, si on se place en 1906, eh bien, cette campagne anticléricale d'expulsion des congréganistes de l'enseignement catholique n'avance qu'assez lentement. En 1906, seulement la moitié des congrégations qui étaient présentes en 1902 sont encore là. Hein. Donc, c'est quand même pas mal. Alors, il va y avoir quelques habiletés. J'en ai parlé tout à l'heure. Je prends par exemple le cas de Saint-Vincent de Senlis, un établissement très ancien, puisqu'il a été créé donc, sous la monarchie de Juillet, dans les années 1830, et qui a une notoriété locale importante. Et là, il s'agirait d'accueillir 300 élèves en déshérence si jamais on fermait Saint-Vincent dans le cadre de l'application de la loi. Mais, comme je vous l'ai dit, la loi a une faiblesse, et les maristes qui dirigent Saint-Vincent ont renoncé à leurs vœux monastiques, et en 1901, ils ont cédé le collège des acquéreurs qui avaient maintenu les enseignants en place, des enseignants qui étaient laïcisés. Et du coup, comme les enseignants sont laïcisés et que l'établissement n'appartient plus aux maristes, eh bien Saint-Vincent peut continuer par un artifice légal, en quelque sorte, et ce sera donc un moyen qui seront suivis par d'autres établissements pour se préserver. Laïciser le personnel, le séculariser, comme l'on dit, pour maintenir leur enseignement privé. Alors, certains n'ont pas eu cette habileté. Par exemple, les mêmes maristes à Pont-Sainte-Maxence n'ont pas fait la même chose. Et du coup, ils ont été expulsés en 1903. Et les 20 frères encore présents sont expulsés. On dresse procès-verbal pour ceux qui sont encore là. Les portes des bâtiments, y compris de la chapelle, sont dégondées, les fenêtres retirées. Donc, ce n'est pas une semi-expulsion. On les expulse vraiment. Eux n'ont pas pensé ou n'ont pas pu, n'ont pas choisi, ne s'étaient pas sécularisés. Donc, un anticléricalisme militant qui prend d'autres tournures aussi, par exemple, dans les communes les plus anticléricales, on va jusqu'à lancer des programmes de destruction de bâtiments catholiques dont on estime qu'ils sont insalubres ou dangereux, ou qu'il y a un autre projet sur l'emplacement où ils se trouvent. Je prends un exemple. En 1903, la collégiale Saint-Évremond de Creil, dont quelques éléments datent du XIIe siècle, est rasée. Il ne reste plus rien, pour faire place nette à l'actuelle mairie, qui est sur donc l'île qui est au centre de Creil. Donc la mairie est construite sur les même pas les ruines, hein, sur l'espace laissé vacant par l'église Saint-Évremond. Il faut dire que le premier édile, Albert Duguay, était membre de la loge du Grand Orient de la ville, la Sincérité fraternelle. Donc il y a un militantisme anticlérical qui va aussi jusqu'à ces données. Et bon, je ne résiste pas aussi à la tentation de vous lire quelques extraits de la presse anticléricale, particulièrement violente, particulièrement agressive. Je prends par exemple Auguste Castellan, dont je vous ai parlé dans une précédente intervention. Voici ce qu'il dit dans l'Écho républicain du Valois, qui paraît à Crépy, le 24 décembre 1905. Attention, c'est quand même des propos assez lourds. « Pour ne parler que de la messe, est-ce que le miracle qui change un peu de pain et de vin en un dieu solide et liquide, digestible et expulsible, n'est-il pas aussi faramineux que celui qui fait apparaître la mère d'un dieu juif à des petits des bergères idiotes ? » Référence à Lourdes. Vous voyez que le propos n'est pas très mesuré. Hein, on est dans le militantisme le plus résolu. Bon, alors, donc, loi sur les associations, 1901. Expulsion des écoles, des congrégations, des écoles privées, fermeture des écoles privées catholiques en 1902-1906, reste donc la dernière grande phase, l'abolition du concordat, c'est-à-dire la séparation de l'Église et de l'État, la suppression du budget des cultes. Je vous rappelle que ce concordat, donc, de 1802, conclu entre Bonaparte et le pape, à l'époque du consulat, le concordat, donc, prévoyait que l'Église de France soit un peu sous la coupe de l'État, et en revanche, l'État payer les prêtres, les évêques, comme les pasteurs et les rabbins, qui étaient un peu fonctionnarisés. Alors ça, les anticléricaux n'en veulent plus, ils veulent la séparation de l'Église de l'État, chacun chez soi. L'État, la République, n'a pas à financer les cultes. Elle n'en reconnaît aucun, n'en finance aucun. Donc évidemment, ce sujet fait bien sûr polémique dans la presse. Il y a la presse conservatrice, l'Éclaireur de l'Oise, le Courrier de l'Oise, de Senlis, la Gazette de l'Oise, de Creil. Et il y a donc les journaux anticléricaux, républicains, radicaux. J'ai cité les Échos républicains du Valois. On peut citer aussi, bien sûr, la République de l'Oise et le Travailleur de l'Oise, qui est l'organe socialiste. Alors évidemment, ce projet de loi est très, très disputé, discuté, commenté. Et je recite encore Castellan, toujours dans l'Écho républicain du Valois. Et on retrouve un peu le même ton, qui est assez intéressant parce que très souvent, on a tendance à considérer qu'il y a une certaine componction à l'époque, une certaine retenue dans les termes. Pas du tout. Les termes sont bien plus violents qu'à notre époque. Alors je cite donc Castellan. « Si jamais la loi de séparation est votée, il sera désormais possible aux déistes d'adorer Dieu, comme il sera permis aux catholiques d'adorer le juif Jésus et ses reliques. Voilà quelle va être l'heureuse conséquence de l'abolition du concordat signé par les deux Italiens, Pie VII et Bonaparte. » Vous voyez donc quand même que le ton de ce militant radical de gauche républicain est étonnamment agressif et les attendus de ces termes sont pour le moins surprenants. Alors la loi est votée dans un contexte de très forte tension. On est loin du ralliement de la période 1890-1899, on est de nouveau dans des tensions très fortes. L'affaire Dreyfus est passée, elle est un peu en train de se calmer. Elle ne sera vraiment passée qu'en 1906, avec le deuxième procès. Et donc on voit que là, la tension religieuse réoccupe le premier plan des discussions.